pas vraiment rentrer dans les programmes et les boîtes noires. Et donc après vous avoir remercié l'école de Valence de m'avoir invité aujourd'hui, c'était une très belle journée, j'ai découvert plein de choses, je vais vous proposer un discours très très lointain sur le type de choses qu'on vient de voir, à savoir des objets qui se bougent sur des écrans de façon automatique, programmée, à travers tout un travail de logiciel et de programmation lié à la numérisation. Et je vais essayer de vous faire lire et réfléchir sur des textes très anciens, alors en particulier du XVIIIe siècle, et quelques images, pour se demander d'où ça vient, alors non pas les pratiques de programmation, mais les imaginaires qui peuvent être associés à ce que nous appelons de façon un petit peu vague des médias, et en particulier à la numérisation de ces médias. Et il me semble, ça c'est un des principes de l'archéologie des médias, dans son versant, hein, deux mots, je ne sais pas si vous êtes familier avec la notion d'archéologie des médias, je sais que certains d'entre vous travaillez là-dessus, je ne sais pas si c'est complètement partagé, mais donc l'idée est de regarder une autre phase de l'histoire des médias, l'histoire des médias étant en général dominée par une pensée ou une idéologie du progrès, à savoir que les smartphones, c'est mieux que les phones pas smart, qui sont mieux que les écrans de télévision, qui sont mieux que les radios, qui sont mieux que le journal, etc. Et là, l'archéologie des médias, c'est d'essayer de construire une autre compréhension de l'invention, mais aussi de l'échec de certains efforts de développement technologique. Donc ça, c'est le côté histoire des machines, voire exhumation de machines. J'ai vu, vous avez un petit laboratoire là-haut, vous avez des anciennes machines, des anciens Mac, des anciens trucs que maintenant on ne trouve plus, dont on a besoin pour faire fonctionner de vieux systèmes. Ça, c'est un pan de l'archéologie des médias. Il me semble que vous travaillez beaucoup là-dessus. Mais il y a tout un autre pan qui est l'histoire des imaginaires médiatiques. C'est plutôt là-dessus que je travaille, parce que je viens des humanités et de la littérature. Et donc, c'est cette espèce un imaginaire, une série d'imaginaires médiatiques que je vais vous proposer de lire à travers une toute petite citation. Alors, en fait, j'avais préparé un multicopier. Je ne sais pas si vous avez pu en avoir au moins un pour deux, ou un pour trois, ou un pour plusieurs, pour essayer de suivre, parce que je vous ai plein de citations. On ne va pas tout lire, rassurez-vous. Mais ce que je vous propose de faire, c'est de lire quelques-uns de ces textes que j'ai choisis, dont la plupart viennent du XVIIIe siècle, un petit auteur dont je vous parlerai tout à l'heure, et de finir sur quelques textes alors plus contemporains qui, me semble-t-il, non pas traduisent, mais montrent certaines des conséquences aujourd'hui, ou il y a quelques années, de ce qui s'est mis en place sur, alors moi je dis trois siècles, mais en fait là je viens de lire dans un ouvrage qui s'appelle « Lire à l'écran », publié par B42, que certains d'entre vous connaissent peut-être, il y a une intervention de Florian Kramer, qui rappelle très justement que la persistance, alors bon il parle d'édition à l'ère numérique, il dit que l'alphabet est lui-même, par définition numérique, un système d'unités d'information distinctes et dénombrables, contraire au continuum analogique indénombrable que représentent les ondes sonores ou lumineuses. Donc je dis trois siècles de numérisation, on pourrait dire depuis qu'il y a de l'alphabet, hein, je ne sais pas, des millénaires de numérisation, si on prend le fait que la grammatisation, peut-être que vous connaissez ce terme que Bernard Stiegler reprend à des gens qui étudient d'ailleurs le XVIIIe siècle aussi, Sylvain Auroux, hein, le fait qu'on réduise, on analyse un continuum en digits, en bits, en petites choses qu'on peut représenter par des chiffres, des zéros, des uns ou des nombres, on peut dire que l'alphabétisation, c'est une façon de faire ceci. Alors, j'aimerais vous citer un tout petit texte que certains d'entre vous, s'il y a des spécialistes de Roland Barthes, peut-être que vous avez déjà croisé ce texte, c'est un extrait de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. C'est un article sur le métier à faire des bas, donc à tisser des bas, dans l'encyclopédie, petit article écrit par Diderot, et je vais vous citer que le tout premier paragraphe, et puis peut-être le dernier, où il nous dit ceci. Et c'est donc Diderot dans l'encyclopédie qui essaye de transmettre, hein, c'est bien une question de médias, qui essaye de comprendre, diffuser, transmettre la pratique de certaines techniques innovantes pour son époque. Une des techniques innovantes, c'est le métier à faire débat, et il avoue son incapacité, à la fois son admiration devant cette machine et son incapacité à la représenter. Et donc la première citation, « Le métier à faire débat est une machine, est d'une des machines les plus compliquées et les plus conséquentes que nous ayons. » De dire que c'est des machines conséquentes, je trouve que c'est très, très important et suggestif. On peut la regarder comme un seul et unique raisonnement dont la fabrication de l'ouvrage est la conclusion. Et donc là, il y a une analogie entre, je ne sais pas, le software et le hardware, hein, entre quelque chose qui serait de l'ordre d'une démonstration, d'un enchaînement symbolique, d'un enchaînement de symboles, d'un enchaînement logique, et quelque chose qui serait de l'ordre de la fabrication de l'ouvrage, le fonctionnement d'une machine. Et cette superposition, cette identification, cette espèce de vertige qu'a Diderot devant l'homologie absolue entre un processus machinique, le bas à tisser, et un argument, un processus logique, une argumentation, un seul et unique raisonnement, me semble quelque chose qui est frappant. C'est avant Babbage, c'est avant, alors vous dire c'est après Pascal, hein, vous pourriez dire il y a Pythagore qui travaillait avec du chiffre, il y a Pascal, il y a Leibniz, donc Diderot ne sort pas de nulle part. Il y a toute une histoire de la mathématisation de l'univers, si on veut, dont il est l'un des résultats. N'empêche qu'on a cette coïncidence entre du hardware et du software, que moi je reprends après à travers quelqu'un que vous connaissez peut-être ou peut-être pas en histoire des médias, qui s'appelle Friedrich Kittler, c'est une sorte de philosophe, penseur allemand, Friedrich Kittler, qui a fait un article célèbre qui disait « There is no software ». Il le disait en allemand, donc je ne sais pas très bien comment on le dit en allemand, mais il n'y a pas de software. Le software, ça n'existe pas. Hein. Finalement, tout est une affaire de machines, de circuits, de courants électriques. Et c'est un petit peu cette intuition, il me semble, qu'on voit avant le software et avant le hardware dans cette petite citation de Diderot. Je vous donne juste la fin de la citation de Diderot. Dernière phrase. La liaison, donc il essaye d'écrire cette machine et il dit qu'il ne peut pas. Il ne peut pas décrire cette machine, ni avec des planches de l'encyclopédie, ni avec un article. Son article fait des dizaines de pages. Parce que la liaison des parties demanderait qu'on dit et qu'on montra tout à la fois, ce qui n'est possible ni dans le discours, où les choses se suivent nécessairement, ni dans les planches, dans les illustrations, où les parties se couvrent les unes les autres. Et donc là, avec cette machine, donc Roland Barthes a fait un petit article là-dessus, où d'ailleurs il mentionne, hein, c'est dans les années 70, où il mentionne une proximité avec ce qui se développe alors comme le numérique, et je trouvais intéressant de partir de ça. Alors quelques années plus tard, en 1760, et là je pourrais passer des heures à vous en parler, c'est un petit auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Charles Tiphaine de La Roche, qui est un médecin normand, qui écrit alors toute une série de textes dont je n'ai pas le temps de vous parler, qui sont tous plus intéressants les uns que les autres, mais en particulier un ouvrage qui s'appelle La Gifantie en 1760, qui est alors complètement inconnu dans la culture française. Je ne sais pas qui a entendu parler de La Gifantie ou de Tiphaine de La Roche, c'est normal, c'est moi qui ai un problème, c'est pas vous. Et donc, alors la seule raison pourquoi ce texte, si vous googlez Tiphaine de La Roche et Gifantie, vous trouvez des choses et vous trouvez que Tiphaine de La Roche est l'inventeur de la photographie. Donc si j'avais fait un petit concours avant d'entrer, qui a inventé la photographie? Vous avez Nicéphore Niépce ou je ne sais pas qui d'autre. Hein, j'imagine que bon, les gens se battent pour savoir qui. Eh bien, on a dit que c'était Charles Tiphaine de La Roche. Pourquoi? À cause de ce passage de la Gifantie, qui est le premier que je vous ai donné. Donc j'ai donné beaucoup plus d'extraits que ce qu'on va lire. Mais il y a juste, alors ça fait le quatrième paragraphe, qui commence par « Les esprits élémentaires ». Où il nous dit ceci. En gros, la Gifantie, c'est un narrateur qui se trouve emporté dans une tempête et qui se retrouve sur une île bizarroïde dans laquelle vivent des choses qu'il ne voit pas du tout d'abord, qui sont des esprits élémentaires, hein, des sortes d'êtres invisibles qui en fait vivent entre nous, il y en a ici, mais on ne les voit pas. C'est seulement quand on va en Gifantie qu'on peut voir comment ils fonctionnent et comment depuis la Gifantie ils contrôlent notre monde, des esprits élémentaires. Et donc le personnage principal, alors qu'il se croit au milieu d'un désert, voit une fenêtre et à travers cette fenêtre, il voit la mer et une tempête en mer. Alors il veut aller vers la fenêtre et puis il se cogne et il s'aperçoit que ce n'est pas du tout une fenêtre mais que c'est un tableau. Sauf que le tableau est tellement réaliste qu'il croyait vraiment avoir vu une tempête en mer. Ce qui est très bizarre, vous allez me dire que Tiphaine, c'est vraiment un mauvais écrivain, parce qu'une tempête en mer, ça bouge, et ce qu'il voit, c'est un tableau immobile. Je pourrais vous justifier ça, mais ce n'est pas le but ici. Ce que je fais, c'est simplement, je vous lis la description de ce tableau qui est tellement frappant, parce que ce n'est pas un humain qui l'a fait, mais il s'est produit tout seul, comme ce qu'on appellera, 70 ans plus tard, de la photographie. Les esprits élémentaires, poursuivit le préfet, c'est celui qui l'introduit à ce monde, ne sont pas si habiles peintres qu'adroits physiciens. Tu vas en juger par leur manière d'opérer. Tu sais que les rayons de lumière réfléchis des différents corps font tableau et peignent ces corps sur toutes les surfaces polies, sur la rétine de l'œil par exemple, sur l'eau, sur les glaces. Les esprits élémentaires ont cherché à fixer ces images passagères. Ils ont composé une matière très subtile, très visqueuse, très prompte à se dessécher et à se durcir, au moyen de laquelle un tableau est fait en un clin d'œil. En un clic. Ils enduisent de cette matière une pièce de toile, la présentent aux objets qu'ils veulent peindre. Le premier effet de la toile est celui du miroir. On y voit tous les corps, voisins et éloignés, dont la lumière peut apporter l'image. Mais, ce qu'une glace ne saurait faire, la toile, au moyen de son enduit visqueux, retient les simulacres. C'est un phénomène d'inscription dont on parlait ce matin. C'est vraiment l'inscription, mais l'inscription, justement, non subjectivée, qui ne passe pas par une subjectivité humaine, qui se fait d'elle-même, la représentation qui se fait d'elle-même automatiquement, c'est la graphie, inscription, par la photo, la lumière. Le miroir vous rend fidèlement les objets, mais n'en garde aucun. Nos toiles ne les rendent pas moins fidèlement et les gardent tous. Cette impression des images est l'affaire du premier instant où la toile les reçoit. On l'ôte sur le champ, on la place dans un endroit obscur. Une heure après, l'enduit est desséché et vous avez un tableau d'autant plus précieux qu'aucun art ne peut en imiter la vérité et que le temps ne peut en aucune manière l'endommager. Fin du paragraphe. Sur nos toiles, des images, tout ça c'est la trace sur nos toiles, des images qui en imposent aux yeux et qui font douter à la raison si ce qu'on appelle réalité ne sont pas d'autres espèces de fantômes qui en imposent aux yeux, à l'ouïe, au toucher, à tous les sens à la fois. Donc ce qui m'intéresse chez Tiphaine, ce n'est pas qu'il ait inventé la photographie, parce qu'il n'a pas inventé la photographie. L'invention de la photographie, c'est de trouver la chimie qui permet de faire ceci. Mais il a décrit quelque chose, et d'ailleurs, si on cherche un petit peu, il n'est pas si original que ça, mais on essayait de penser à ce moment-là cette espèce de captation automatique de la lumière sur quelque chose qui court-circuite, qui automatise le processus, et donc qui exclut de la production d'images, les subjectivités humaines. Avec ce résultat, dans la deuxième partie de la citation, qui est que si ça se fait automatiquement, et si ça se fait, nous dirions, avec une assez haute définition, il nous arrive ce qu'il arrive aux voyageurs, à savoir qu'on croit que c'est la mer qui est en train d'être de l'autre côté d'un mur ou d'une fenêtre, alors que c'est un simulacre, nous dit-il. Là, on est en plein dans Baudrillard, c'est du virtuel, c'est quelque chose qui n'est pas actuel, qui n'est pas vraiment là. Bon, la fin de la citation, c'est de telles images valent les choses. Et tout le problème, c'est cette question de valoir. Quand est-ce qu'une image vaut une réalité? Et il me semble que c'est un des problèmes dans lesquels on est. Pas forcément à cause du numérique, mais que le numérique revivifie ce type de questions. Alors bon, donc Tiphaine, il est inconnu. S'il n'est pas inconnu, c'est parce qu'il aurait inventé la photographie. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui me semblent plus intéressantes dans toujours ce même texte qui s'appelle La Gifforti, que vous pouvez trouver d'ailleurs sur Internet, c'est sur Gallica. Dans un épisode ultérieur, ou antérieur, je ne me rappelle plus, il, toujours sur cette même île de Gifforti, il s'approche d'une colline au sommet duquel il entend un bourdonnement. C'est la télésurveillance globale, le deuxième partie que je vous donne. Un bourdonnement important qui se passe autour d'un globe, d'un diamètre considérable. Cet effroyable tintamarre, il s'en approche et le préfet, de nouveau, qui lui explique comment fonctionnent les choses, il lui dit, deuxième paragraphe, qu'il y a des petits canaux imperceptibles qui viennent de chaque point de la superficie de la Terre pour aboutir à ce globe. Et là, il lui explique comment ça fonctionne. Et il lui dit, fin du deuxième paragraphe, « Remarque tel point de ce globe qu'il te plaira, qui est donc une sorte de map-monde, en y posant la pointe de la baguette. » C'est exactement ce qu'on voyait tout à l'heure. Là, c'est le petit curseur et la petite... Alors, c'est une baguette magique, mais c'est le doigt ou alors le clic ou la souris ou le curseur. en remarque tel point de ce globe qu'il te plaira, en y posant la pointe de la baguette que je te mets aux mains, et portant l'autre extrémité à ton oreille, tu vas entendre distinctement tout ce qui se dit dans l'endroit correspondant de la terre. Et quelques pages plus loin, on lui propose un miroir, et ce miroir non seulement permet d'entendre ce qui se passe, hein, c'est le paragraphe suivant, je m'amusais de tous ces propos, on me présenta un miroir, tu ne peux que deviner les choses, me dit-il, mais avec ta baguette et cette glace, tu vas entendre et voir tout à la fois, rien ne t'échappera, tu seras comme présent à tout ce qui se passe. Hein. Telle est présence, Manovitch, tu seras présent à tout ce qui se passe à travers cet appareillage technique de captation des sons et des images à travers tout un système. Il nous explique que c'est des miroirs qui se reflètent, etc. Bon, imaginaire médiatique. Et de nouveau, imaginer la photographie, ce n'est pas inventer la photographie, n'empêche que tout l'intérêt, et là je passe là-dessus parce que j'ai pas le temps, tout l'intérêt de la Gifanti, c'est qu'il imagine que si on avait de la photographie, si on avait la capacité de cliquer sur n'importe quel point du globe et entendre ou voir ce qui est en train de se passer en ce point du globe, qu'est-ce qui se passerait? Et donc ça, vous pouvez trouver ça intéressant. Moi, je trouve ça amusant. Mais bon, ce qui me semble le plus intéressant, c'est l'étape suivante. Donc, en bas de ces séquences que je vous ai données sur la télésurveillance globale, je me saisis avec empressement de cette glace merveilleuse. En moins d'un quart d'heure, je passais toute la Terre en revue. Et passer toute la Terre en revue, c'est le titre de Gifanti. Hein, Gifanti, alors... On a toujours dit que c'était un anagramme de Tiphaine. Son nom, c'est Charles Tiphaine. Donc, Tiphaine, vous changez l'ordre des lettres et vous avez Gifanti, d'accord ? Mais c'est surtout, voire davantage, Fanein. Fanein, c'est l'apparition, ce qui se voit, hein, ce qu'on peut voir, passer en revue, et Gaïa, J, la Terre. Donc, c'est vraiment la vision de la Terre, la vision globale que met en scène ce voyage dans la Terre de Gifanti des esprits élémentaires. Alors, moi, ce qui m'a intéressé le plus dans cette affaire de Tiphaine, c'est la plus grosse partie du texte, à savoir que ce qu'il entend et ce qu'il voit sur ces quatre coins de la Terre, ce sont des choses d'une pauvreté et d'une banalité à pleurer. C'est ce qu'on appellerait des clichés, typiquement. Non seulement, à mon avis, s'il faut dire quelque chose de Tiphaine, ce n'est pas qu'il invente la photographie, c'est qu'il invente, ou non, là, ce serait abusif de dire qu'il invente, mais en tout cas, il représente un monde de clichés. Et là, je ne vous cite pas, enfin, y a une citation par la suite, mais c'est que des âneries. Hein. Ce qu'il entend, c'est que tout le monde dit en gros les mêmes choses aux quatre coins de la planète. Et donc, c'est plutôt une sorte de critique, si on veut projeter quelque chose sur lui, ça serait plutôt une sorte de critique des industries culturelles avant les industries culturelles, à savoir que les humains s'imitent, se répètent les uns les autres, et qu'en général, ce qu'ils répètent, ce n'est pas très intéressant. Ou alors, il faut les utiliser, il faut écouter ça avec un autre regard qui ne va pas essayer de chercher directement des informations ou des beautés dans ce qui se dit, mais de les prendre comme des symptômes. Alors, là, de nouveau, on pourrait discuter de ça plus longuement. Je vais avancer un petit peu et je vais passer à quelques images. Alors, vous voyez qu'en bas de ma page 2, je suis désolé, elles sont un petit peu petites, mais là, je remonte dans le temps, toujours dans ces imaginaires médiatiques. Hein, ce qu'on vient de voir en 1760 dans la Gifanti de Charles Tiphaine de La Roche, avec ces systèmes acoustiques ou par des canaux, on pourrait entendre ce qui se passe aux quatre coins de la planète et avec une sorte de baguette, cela passer dans l'oreille. Il y avait quelqu'un dont je ne sais pas si vous le connaissez, mais qui s'appelle, c'est un jésuite qui s'appelle Athanasius Kircher, qui a écrit toute une série d'ouvrages autour de 1650, qui sont très importants pour les imaginaires médiatiques. Si ce genre de choses-là vous intéresse, il y a un Allemand qui s'appelle Siegfried Zielinski, qui enseigne à Berlin, et qui a fait tout un livre qui s'appelle justement... Ouais, il vous fait rire, Zielinski ? Quelqu'un connaît Zielinski ? Berlin. Ah oui, non. D'accord. Zielinski, moi je ne l'ai jamais rencontré. Il va venir faire une conférence en France dans quelques temps. Et donc il a fait ce livre qui s'appelle, alors en allemand c'était Archéologie der Medien, Den Medien peut-être, je ne sais pas, ou un autre ami Jens. Ce n'est pas encore traduit en français, ça a été traduit en anglais par the deep time of the media, hein, le temps profond des médias, dans lequel il a différents chapitres, dont un chapitre sur Kircher, qui nous montre justement ses dessins, alors on peut dire anticipations, si on veut finaliser, téléologiser la chose, ou simplement un imaginaire, de communication du son, ou de captation du son. D'abord, de l'image ensuite, hein, la deuxième petite image, c'est justement ce jeu de miroir dont a pu s'inspirer peut-être Tiffaigne, qui permet, alors à la fois, là je ne sais pas si vous voyez, vous pouvez le trouver sur internet facilement cette image et la grandir, mais c'est de capter des rayons solaires, de placer entre les rayons et les miroirs des sortes de calques ou des sortes de filtres qui permettent dans une chambre, hein, c'est le principe de la lanterne magique, de la caméra obscura, etc., qui permettent de projeter dans une chambre des mots sur un écran, des représentations de visages ou d'autres choses, avec forcément une forte analogie avec les anges, hein, avec la communication qui vient du ciel, la communication immatérielle. Et ce qui m'intéresse, une des choses qui m'intéresse dans ce corpus d'écrits ou de réflexions, c'est, là, si ça vous intéresse, il y a vraiment des pages chez Tiffaigne Delaroche qui sont très intéressantes là-dessus, pour extraire de la communication humaine la notion d'information. Quelque chose qui soit de l'esprit. Hein, l'esprit, qu'est-ce que c'est que l'esprit ? C'est spiritus, c'est quelque chose qui souffle. L'esprit, c'est en général ce qui s'oppose au corps. Et l'esprit, soit on peut le discréditer en disant ce sont des pensées idéalistes, diraient les marxistes, hein, ce sont des pensées non matérialistes, et nous on a plutôt tendance dans la modernité à être du côté du matérialisme, donc des gens comme Tiffaigne n'ont pas été lus, c'est pour ça qu'il a été mis du côté des anti-lumières ou des rigolos ou de littérature merveilleuse, alors que ce qui se forge chez quelqu'un comme Tiffaigne, c'est la pensée de la notion d'information, hein, que la notion d'information, moi je ne crois pas que ce soit quelque chose d'immatériel, on emploie beaucoup, on a employé, je crois que ça se fait un petit peu moins maintenant, virtuel et immatériel, on s'en méfie un petit peu, mais on a quand même pas mal parlé d'immatériel, comme si c'était justement quelque chose qui n'est pas matérialisé du tout, alors qu'on sait qu'il faut de l'électricité, qu'il faut de la matière pour que les ordinateurs fonctionnent, on est bien d'accord, n'empêche que la notion d'information comme telle, comme quelque chose qui, ou de programme, hein, le programme, oui, il est matérialisé dans les machines, oui, on peut l'imprimer, oui, on peut faire tout ceci, n'empêche qu'il n'est pas attaché à une matière particulière. Ce matin, on parlait avec quelques-uns d'entre vous de la langue. Hein, la langue, on disait, elle est ni la langue française, elle est ni dans votre tête, ni dans la mienne, elle est entre nous. Et on peut me tuer, moi, la langue française existe. Si on tue tous les francophones, je disais, il n'y aura plus de langue française. Si on brûle tous les livres, il n'y aura plus de langue latine, etc. N'empêche que, pour le moment, c'est quelque chose qui ne se résout pas ni à la matière de mon cerveau, ni à celle du vôtre, etc. Donc cette notion d'information comme étant quelque chose vraiment de presque, hein, ce que disent les philosophes de l'époque, c'est que c'est presque immatériel. Les esprits animaux, qu'est-ce que c'est que les esprits animaux au XVIIIe siècle, au XVIIe, XVIIIe siècle ? C'est ce qu'on appelle l'influx nerveux. C'est ceux qui circulent entre mon cerveau, à travers mes nerfs, pour aller me faire bouger le doigt. Et il décrivait ça comme des esprits, comme des souffles, hein, des flux, nous on dirait des influx, de l'influx nerveux, du souffle, qui se déplacent très vite. Il ne comprenait pas comment ça pouvait se déplacer aussi vite. Et il disait, c'est pas de la matière, enfin le nerf c'est de la matière. Le nerf, oui. Mais ce qui se transmet, le courant, le flux, c'est autre chose. Si on dit que c'est de la matière, on rate quelque chose. Il peut y avoir des flux d'informations qui ne sont pas de la matière, qui passent par la matière, mais qui ne sont pas de la matière. Et c'est tout ceci que essaye à la fois d'imaginer Charles Tiffaigne avec ces modes de circulation d'images ou de sons, et que dans d'autres textes que je ne vous ai pas cités ici, il théorise plus directement. Alors, ça, c'était Kircher et Tiffaigne. Je vous mets deux autres choses aussi qui me semblent intéressantes. Si on avance un petit peu dans le temps, enfin là, c'est vers 1750-1760. L'image que vous avez au milieu de la page 3, c'est quelque chose qui a surpris un musicien qui a été accueilli dans je ne sais plus quel cours c'était. Je crois que c'était. Est-ce que c'était autour de Nancy ? Mais je ne suis pas sûr. On invite un musicien. Un des grands solistes de l'époque sur clavecin. Et puis, on lui dit d'improviser quelque chose, hein, d'improviser ou de nous faire sa dernière mélodie. Et c'est la première fois qu'il la jouait. Il vient la jouer. On le réinvite le lendemain et on lui joue exactement la même mélodie. Et le type, il est soufflé. On lui a volé, hein, on lui a volé son âme. On lui a volé sa créativité, on lui a volé sa création. Et comment on a fait? C'est, alors, un Gramel ou Sulzer, il y a de nouveau pour toutes ces inventions, les gens se battent pour savoir qui l'a fait en premier. Sous le clavecin, il y avait, c'est de nouveau une affaire d'inscription, hein, il y avait une sorte de rouleau qui avançait. Lorsqu'il pressait une touche du clavecin, non seulement ça faisait du bruit, mais ça faisait une petite impression en bas. Et en fonction de l'avancée de la rotation du papier et des marques que ça laissait, on a pu reconstituer quelle touche il avait joué. Et donc, c'est une partition qui s'inscrivait, hein, toute seule. Et donc, on a pu lui rejouer le lendemain matin. Donc, ça laisse la petite chose que vous avez au milieu. Et la petite chose que vous avez à droite, là, ça, c'est une vraie machine. La petite chose, la dernière chose que vous avez à droite, c'est un fou, hein, un psychotique anglais, qui, après un voyage en France, et je vous passe les détails, était sûr que dans certaines parties de Londres, vous aviez une machine qu'il a appelée le métier à tisser de l'air, c'est ce qu'il y a ici, qui, par différents jeux d'effluves, hein, chimiques, c'est les petits tonneaux que vous voyez derrière et les petits tuyaux, et par un jeu de projection d'un flux là, plutôt électrique, hein, ou alors d'un flux magnétique, c'est l'époque du magnétisme de quelqu'un qui s'appelle Mesmer, qui essaye de soigner les gens à travers la circulation d'un flux magnétique. Eh bien, James Tilly Matthews, dans sa folie, est sûr qu'il y a des machines comme ceci sous Londres qui ont une range, une capacité d'action, une échelle d'action de quelques centaines ou quelques, peut-être quelques kilomètres, qui peuvent contrôler les pensées de leur cible. Et toute l'histoire de Gifanti, c'est justement ces esprits élémentaires qui peuvent contrôler nos pensées, pour le bien ou pour le mal. Et il y a quelqu'un à la fin du siècle qui, en étant assez pointu sur ce qui se développe en technologie de l'époque, imagine, dans sa folie, une machine à contrôler les esprits. Et de nouveau, l'archéologie des médias, dans son versant imaginaire, essaye de comprendre ceci, de comprendre sur quoi ça se base, de comprendre en quoi ça anticipe certaines de nos phobies, etc. Alors, je vous ai dit que je parlais de médias, mais plutôt de numérisation aujourd'hui. Dernier extrait de la Gifanti, qui apparemment n'a rien à voir avec la numérisation et rien à voir non plus avec la communication. Deuxième partie de la Gifanti, le personnage est invité à manger, et dans ce monde toujours d'esprit élémentaire, et son repas, on lui présente un fruit, une sorte de... Alors, moi, j'appellerais ça du tofu. Hein. Je suis végétarien, donc ce n'est pas une insulte pour moi, le tofu, mais je reconnais que le tofu, ce n'est pas le truc le plus savoureux et le plus délicieux qu'on a fait sur la planète. Et donc, il a une sorte de fruit insipide, carré de tofu, et puis un verre d'eau. Et puis, bon, ben, il est un petit peu fin, donc il mange un peu du fruit insipide, du tofu, et puis il boit un verre d'eau, et puis il dit merci, il veut être poli, il est invité et tout, il ne va pas commencer à faire, mais bon... Et le préfet lui dit ceci, donc deuxième paragraphe de Un monde de synthèse à la troisième page. « Tu as eu la complaisance de goûter du fruit et de la liqueur, me dit-il, tu auras celle d'assaisonner l'un et l'autre. Les poudres salines qui les environnent, hein, il y avait toute une série de salières, hein, salières qui étaient autour de ce fruit et de ce verre d'eau. Les poudres salines qui les environnent ont peut-être plus de vertu que tu ne penses. Je t'invite à en essayer. » Et donc, fin de ce paragraphe, il répandit un grain de l'une de ces matières salines sur son tofu, et l'ayant goûté, je la pris pour une aile d'ortolan. Même chose avec le vin, il répand un tout petit peu de sel dans son eau, et ça devient du vin de Beaune, de Nuit, de Chambertin, seigneur préfet, etc., etc. Et il finit le paragraphe comme ça. « J'ai admiré le mécanisme de ces chefs-d'œuvre et l'intelligence merveilleuse des esprits, la télévision, Google Earth, etc. Mais en ce moment, de l'admiration, je passe au désir. Serait-il permis à un mortel d'entrer dans les mystères de la physique des esprits? Puis-je apprendre de vous le secret inappréciable de vos poudres salines ?» Et si vous regardez le deuxième paragraphe de cette section que je vous ai découpée, à la troisième ligne, il dit ceci, « De la terre que la chimie la plus rigoureuse dépouillerait de la moindre parcelle étrangère aurait autant de goût que ce bout de tofu qu'on lui a donné. » Et là, c'est le mot de chimie qui m'intéresse, parce que qu'est-ce qui se passe au XVIIIe siècle? Au XVIIIe siècle, c'est le passage de ce qu'on a rétrospectivement disqualifié comme étant de l'alchimie, des choses qui justement s'intéressaient aux esprits et qu'on considère comme fumeux, à ce qu'on considère comme la chimie scientifique, sérieuse, avec Lavoisier, avec etc. Qui fait quoi, cette chimie scientifique? Elle réduit la diversité infinie des fruits, des légumes, des matières concrètes dans lesquelles nous vivons, à des éléments. Et je vous ai dit que c'est l'île des esprits élémentaires, c'est peut-être pas un hasard si c'est l'île des esprits élémentaires, parce que justement, leur puissance d'information, c'est une puissance d'analyse, de réduire du complexe, du concret, à ces éléments purs. Et pour nous, l'idée, je crois que vous avez travaillé sur la table de chimie, tu me dis, vous avez parlé des tableaux de chimie, non? En début de semaine? Ah non, je croyais, j'ai rêvé, pardon. Le tableau des éléments de la chimie, ça représente ceci, toute la diversité de ce dont on est fait, de ce qu'on mange, de ce qu'on boit, etc., c'est des combinaisons et recombinaisons de ces éléments-là. Et c'est la modernité. C'est ce qui qualifie ou disqualifie, c'est à vous de voir, ce qui se passe depuis 300 ans, voire plus. Alors, cette modernité et cette analyse chimique en éléments par décomposition de la matière, dont je crois que ce qu'on est en train de vivre et ce que vous êtes en train de faire ici, ce à quoi vous participez et que vous essayez d'altérer, de modifier, d'infléchir peut-être, c'est quelque chose de tout à fait similaire. La numérisation, c'est l'analyse de nos processus mentaux, de nos processus relationnels sociaux, leur analyse en éléments d'information, en data qu'on peut ensuite recomposer par des algorithmes et avoir non seulement une connaissance, mais une puissance d'influence, un petit peu à la James Tilly Matthews, le heirloom, le métier à tisser l'air, le métier à tisser les esprits, c'est très précisément, ça passe aujourd'hui par ces logiciels et le traitement des big data. Donc il y a un anthropologue que moi j'aime beaucoup, là on passe dans le monde contemporain, c'est un monsieur qui est encore vivant, qui s'appelle Tim Ingold, qui propose trois petits dessins que je vous ai mis en bas de cette page. Et en fait, il est... Alors bon, lui, il parle de promenade, il parle de mode de déplacement. Oui, on peut partir en temps de mode de déplacement. Il nous dit, si vous êtes chasseur-cueilleur, vous vous promenez en forêt en faisant que votre mouvement soit attentif, soit sensible à votre environnement. À savoir, si vous êtes chasseur-cueilleur, vous devez être très sensible à certaines couleurs. S'il y a du rouge, ça peut être des baies que vous mangez. S'il y a certaines odeurs, ça peut être des champignons que vous pouvez cueillir. S'il y a certains mouvements, c'est peut-être un animal que vous pouvez chasser. Et donc, lorsque vous vous promenez en forêt, vous allez évoluer sur le mode que lui appelle le cheminement, pas à pas. Et chaque pas va être déterminé par votre sensibilité à l'environnement. Et vous ne savez pas où vous voulez aller, vous savez que vous voulez revenir la besace pleine de fruits, de champignons, de gibier. Bon. Un premier mode de déplacement, cheminement. Et, nous dit-il, c'est par le cheminement qu'on habite. Si vous habitez quelque part, ça veut dire que vous cheminez dans cet espace. Il y a quelque chose d'autre qu'on appelle le transport. C'est un autre type de mouvement, c'est le transport. Qu'est-ce que c'est que le transport? C'est être dans un point A, vouloir arriver dans un point B et considérer que le temps entre le point A et le point B, c'est du temps perdu. Vous n'avez pas besoin d'être attentif. Moi, quand je monte dans mon TGV ce soir pour aller à Paris, je n'ai pas besoin de regarder les couleurs, les bruits, les odeurs. Je peux m'endormir et plus ça se passe vite, c'est pour ça que ça s'appelle TGV, plus c'est à grande vitesse, mieux c'est. Et moins on est sensible à ce qui se passe, on peut lire, on peut dormir, etc. C'est du temps perdu lorsqu'on se déplace. Le mouvement est du temps perdu. Ça, c'est le transport. Et il dit, une des choses que fait la modernité, c'est passer du cheminement, qui est quelque chose de continu, au transport, qui est discontinu. Et il essaye, alors il prend, donc ça c'est un mode de penser ce qu'il nous dit, introduire la discontinuité. Un autre, c'est ceci, il prend un tracé, qui est un tracé fait au crayon, là en fait c'est repris d'un roman du 18e qui s'appelle... Tristram Shandy de Jonathan Stern, dans lequel, quelqu'un a tracé ceci comme une signature, comme lorsqu'on fait une signature, c'est du tracé, c'est un geste continu, équivalent au cheminement. La plume reste sensible à la surface sur laquelle elle évolue. Et il dit, comment comprendre ce que c'est que la modernité ou la modernisation ? C'est le passage du cheminement au transport ou c'est l'analyse d'un geste continu en éléments, en points, bits, hein, en échantillonnage, discontinu. Et une fois qu'on a fait ce travail d'analyse, qui là, pour le coup, est absolument analogue, que vous preniez la chimie qui analyse des processus ou des matières en éléments, ou que vous preniez des processus mentaux ou des processus humains, physiques, ou des processus sociaux que vous analysez en moment, une fois qu'on les a analysés en point, on va les reconnecter. Mais on pourrait aussi bien les connecter différemment et les recombiner. Et donc c'est ce travail d'analyse, hein, je parlais de grammatisation tout à l'heure, numérisation, transformer tout en discontinu, tout en gramma, hein, qu'on va pouvoir programmer, qu'on va pouvoir recombiner par une programmation, qui me semble-t-il caractérise, alors soit à long terme, les conséquences de l'alphabet dans les sociétés humaines, ça c'est pour reprendre ce que disait Florian Kramer, soit ce mouvement qui est quand même beaucoup plus intense et beaucoup plus radical depuis 3 siècles, hein, depuis l'encyclopédie, depuis 1750, voire peut-être depuis 1670, on pourrait peut-être remonter encore un petit peu en avant, qui là est en train de s'accélérer avec ce qu'on appelle la numérisation. Et là j'aimerais vous donner 6 ou 7 position, problème de cette numérisation, si on la regarde comme ça sur le long terme, dont je vais tirer d'un philosophe et écrivain contemporain qui s'appelle Tristan Garcia, et 6 d'un philosophe malheureusement décédé qui s'appelait Wilhelm Flusser, que certains d'entre vous connaissent déjà. Alors, de Tristan Garcia, au sein de cette analyse, alors qui pour nous, hein, on va laisser la chimie de côté, mais cette analyse numérique, hein, cette analyse du monde, cette analyse du monde en éléments qui pour nous prend la forme du numérique, Garcia, il n'est pas en train de parler de ça, il est en train de parler de l'économie, de la valeur économique. Mais il me semble qu'il nous dit quelque chose qui résonne avec ces phénomènes de numérisation. Il dit ceci. D'ailleurs, son travail, hein, c'est tiré d'un traité des choses. Tout à l'heure, on se demandait est-ce que c'est des objets ou des choses, ce qu'on voit. Il essaye de penser ce que c'est qu'une chose pour nous aujourd'hui. Et donc, c'est pas. Voilà, c'est la numérisation, ça fait, même s'il n'en parle pas beaucoup, c'est le problème de qu'est-ce que ce serait qu'une chose numérique aujourd'hui. À partir du moment où la valeur économique des choses consiste dans leur essentielle remplaçabilité, et il explique ça brièvement en disant « une chose en vaut une ou plusieurs autres ». C'est la valeur en tant non pas que valeur d'usage, mais valeur d'échange. La valeur économique, ça serait la valeur d'échange. Tout le libéralisme et le néolibéralisme, de même que la numérisation transforme tout en chiffres, hein, le libéralisme qui commence depuis, de nouveau, la même époque, hein, depuis le XVIIIe siècle ou fin XVIIe, transforme tout en, alors, ou plutôt tente à réduire la production de tout à sa valeur d'échange. Et sa valeur d'échange, ça présuppose que toute chose puisse être échangée contre une autre chose, que ce soit de l'argent ou que ce soit du troc, et donc qu'une chose vaut une ou plusieurs autres choses. Et donc, ça implique sa remplaçabilité. Donc, il pose la question, est-il encore possible de proposer une valeur d'irremplaçabilité des choses et suivant quels critères ? Et là, on voit bien que c'est le problème qui est directement issu de la petite lecture de Tiphaine sur le repas. Si le tofu a le goût de l'ortolan, hein, si on peut échanger l'un contre l'autre, voit qu'on ne voit pas la différence, c'est bien un régime de substituabilité. Est-ce que c'est dans ce monde-là qu'on vit ? Est-ce que c'est dans ce monde-là qu'on va de plus en plus, de nouveau, depuis 3 siècles ? Est-ce que dans le numérique, il y a quelque chose d'irremplaçable ? Et moi, ma question, ça serait, qu'est-ce que vous avez comme expérience du numérique qui soit irremplaçable, non substituable. Parce que justement, la définition du chiffre, c'est que c'est le substituable. Si j'ai 3 pommes et 5 oranges, ben cette pomme-là, elle est différente de la pomme du voisin, mais si je prends que 3 et 5, la définition de 3 et 5, c'est que ça peut être 3 pommes, ou 3 champignons, ou 3 autre chose. Le 3 comme tel, le chiffre comme tel, il est substituable. Tous les 0 et les 1 qui sont dans les ordinateurs, ben c'est des 0 et des 1, et c'est par définition substituable. Donc qu'est-ce qu'il y a ou qu'est-ce qu'il y aurait de non substituable dans une expérience qui passe par le numérique? Je ne sais pas, mais je vous pose la question. Point suivant, je bascule donc, et là j'aurai peut-être encore 10 minutes, ça va? Sans ça, on coupe. Je vais passer sur le premier d'ailleurs, parce que c'est une histoire de valeur, de modèle, on laisse ça de côté. Voilà, le deuxième, j'aime bien. Deuxième citation de Flusser. Et peut-être si vous avez déjà, voilà, si tu me dis, toi, c'était mon témoin, si vous avez déjà travaillé sur tout le truc de Flusser, on avance et puis on passe aux questions, ou si vous en parlez dans les cours ou ailleurs, tu as besoin d'y revenir. Deuxième citation de Flusser que j'aime bien. Les appareils sont des dispositifs techniques et la technique est l'application de connaissances scientifiques à des phénomènes. Dans ces dispositifs, l'abstrait ici, il dit équation. Et il dit équation parce que à ce moment-là, il a en tête l'appareil photographique, parce que c'est justement des proportions de produits chimiques qui, donc des formules, hein, des équations qui permettent à un appareil comme l'appareil photo de produire des images, selon ce qu'imaginait Tiphaine Delaroche tout à l'heure. Mais pour nous, c'est encore plus évident si on a des appareils numériques. Donc dans l'appareil numérique, l'abstrait, le compte, l'algorithme, est utilisé pour produire du concret. Dans le cas de la photographie, par exemple, des équations mathématiques sont converties en images. Et il nous donne ici cette formule-là que je trouve à la fois complexe, riche, il faudrait du temps pour la déployer, mais qui condense un problème que moi je trouve vraiment central. Les images anciennes, mettons tableaux, hein, les grottes de Lascaux, ou les tableaux faits par le Titien, ou les caricatures faites avec un crayon. Les images anciennes sont des abstractions subjectives tirées des phénomènes. Il y a des phénomènes, il y a des bisons, il y a des tempêtes en mer, et puis il y a des abstractions subjectives, on en abstrait de l'image d'une tempête en mer certaines couleurs, certaines formes, qui passent par la subjectivité d'un peintre, et ça fait un tableau, ou ça fait quelque chose sur la grotte de Lascaux. D'accord. Donc les images anciennes sont des abstractions subjectives tirées des phénomènes. Alors que les images techniques concrétisent des abstractions objectives. Dans les images techniques, il y a des abstractions objectives, des programmes, des logiciels, des données, mais des data, c'est justement la transformation de réalité concrète en chiffres abstraits, en chiffres dématérialisés, si vous voulez. Donc, les images techniques, elles résultent de la reconcrétisation de ces abstractions objectives. C'est vraiment le petit schéma qu'il y avait tout à l'heure. On analyse tout en points. Ces points, on les transforme en pure information ou en chiffres, et puis on les recombine. Et ça peut produire du tofu, ça peut produire des images, ça peut produire des expériences, des hologrammes, pourquoi pas, des injections chimiques qui me donnent du vrai plaisir sexuel alors qu'il n'y a que des trucs qui sont branchés sur mes hormones, pourquoi pas. Simplement, ça a passé, c'est des expériences concrètes qui sont issues d'abstractions objectives. Point suivant, je saute le début. Tout ça, ça passe donc par des formules, par des programmes, par des codes, et quiconque ne sait pas lire ces codes, c'est 3 après les parenthèses, quiconque ne sait pas lire ces codes est au moins aussi radicalement analphabète que l'étaient jadis ceux qui n'avaient pas la maîtrise de l'écrit. Et comme je vous le disais en début de séance, chaque jour, je me sens plus analphabète parce que je ne prends pas le temps d'apprendre à programmer. Et je suis donc confronté à un monde constant de boîtes noires. Il me semble que la plupart d'entre nous, même les programmeurs parmi nous, mais un peu moins quand même, Et le fait d'être constamment soumis à des abstractions, enfin, soumis, c'est pas négatif, soumis, c'est pas que je suis un esclave et que je suis aliéné, mais que mes expériences concrètes passent de plus en plus par des abstractions objectives générées à l'intérieur de boîtes noires et que j'ai pas le premier tournevis pour ouvrir ces boîtes noires, je prends en pleine figure ce qu'il nous dit ici, à savoir que je me trouve dans une situation d'analphabétisme profond. J'en tirerai quelques conséquences tout à l'heure. La quatrième citation, c'est justement autour de cette société de boîtes noires. De nouveau, pour aller vite, je saute les trois premières lignes. Troisième ligne, la fin de la troisième ligne. La société se règle sur ses modèles, ces abstractions programmantes, ces algorithmes, si vous voulez. La société se règle sur ses modèles qu'elle peut suivre, je peux suivre, mais non déchiffrer. Comme ces modèles lui sont opaques, des boîtes noires, elle n'a même pas complètement conscience d'être manipulée. Phrase suivante, ou citation suivante, de nouveau je saute la première. Qu'est-ce que c'est que tous ces automatismes, tous ces programmes? C'est de mettre l'homme hors circuit. Ce sont bien des circuits, mais ce sont des circuits qui doivent travailler plus vite que ce que la conscience humaine peut faire, pour plein de raisons. Et donc mettre l'homme hors circuit, telle est l'intention qui a produit ces machines, ces abstractions objectives qui produisent notre concret. Ensuite, il dit que c'est des clichés, mais je passe là-dessus. Ensuite, il nous dit que les artistes, c'est peut-être une citation que je vous donne, c'est la 7 et 8. Il nous dit que ces appareils photo qu'a imaginé Charles Tiphaine de la Roche, qu'a développé le 19e siècle, qu'a diffusé Kodak au XXe siècle, participe de cette mise de la subjectivité humaine hors circuit, à savoir que ça tend à reproduire automatiquement certains types de cadrages, certains types de choses considérées comme intéressantes, certains types d'attention, donc certains types de clichés, et que parmi cette circulation des clichés, il y a des très petits nombres, c'est le début de 7, il y a un très petit nombre de photos ou un très petit nombre de gens, qu'il va appeler des acrobates, qu'on appelle des artistes, qui essayent justement de défléchir, d'infléchir, de ne pas simplement être traversés par la reproduction des clichés. Et c'est ce qu'il dit, là je vous cite quelques extraits de 7 et 8. Ces artistes, l'intention de ceux qui prennent ce type particulier de photos est de produire des images qui se mettent en travers, lui dit, du déferlement des clichés, en travers de la circulation automatique des clichés à travers les médias. Médias étant pas seulement les mauvais mass médias de la télévision, mais tous les médiums au pluriel dont on se sert, qui ont tendance, parce qu'ils sont eux-mêmes automatisés, à reproduire des circulations automatiques. Donc il y a des artistes. Qu'est-ce que c'est que les artistes? C'est ceux qui essayent de produire des choses, des images, qui se mettent au travers de ce déferlement, qui forcent les appareils à fonctionner contre le progrès de l'appareillage qu'ils représentent. Exposer et regarder de telles images signifie créer dans l'océan des images une île où l'on ne se réfugie pas seulement, mais d'où l'on peut tenter de reprendre en main les rênes des appareils qui nous ont échappé. Paragraphe suivant, il nous dit que ces images, il va les appeler des images contemplatives. On voit bien que ça présuppose une suspension de la circulation et du déferlement, une suspension de l'attention pour voir autre chose que ce qu'on voit habituellement dans cette circulation automatique. Et il dit que ces images, une telle image contemplative, se refuse à être diffusée par des faisceaux d'ondes parce qu'elle s'oppose, de par sa structure, aux appareils. Et que les acrobates qui produisent ceci, ce sont des artistes. D'où ma conclusion en deux minutes. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire qu'un art numérique, des artistes numériques, si on prend cette dernière page avec Garcia et Flusser, une sorte de programme en six points, l'art numérique vise une des choses qu'il peut faire, moi c'est pas à moi de dire ce que ça doit être, mais une des choses que ça pourrait être, ça serait justement de produire par le numérique des expériences non substituables. Je ne sais pas très bien ce que c'est, mais ça m'intéresserait que vous me disiez ce que vous imaginez là à travers. Ça serait de corroder ces modèles dominants, ces modèles, ces abstractions objectives qui reproduisent automatiquement du concret qui a été recombiné à partir d'une analyse en éléments. Donc corroder ces modèles dominants, ce serait une autre façon de dire ce que fait le travail d'artiste, en particulier dans le numérique. C'est aussi de concrétiser, peut-être encore plus ou différemment, ces abstractions. Il y a quelque chose dans le passage de l'abstrait à la concrétion, ou à la concrescence. Il y a des degrés de concrétion, il y a des degrés de présence de ce que produit le numérique, et de faire un effort de concrétisation qui va au-delà de ce que fait la machine qui fonctionne par elle-même. Ça pourrait aussi être un objectif de l'art numérique. D'alphabétiser les pas encore hackers, hein, de contribuer à l'alphabétisation numérique, ça peut aussi être, à mon avis, un objectif ou une visée d'un art numérique. De casser ou d'ouvrir les boîtes noires, ce qui va un petit peu ensemble, et de casser les clichés. Là, quand je dis casser les clichés, je reprends une expression qui vient de Gilles Deleuze. C'est Deleuze et, dans ces années 80-90 autour de Baudrillard et d'autres, qui assignaient au cinéma la fonction justement de produire des images autres, des images contemplatives. Je ne crois pas qu'il avait lu Flusser, mais c'est vraiment le même type de pensée, hein, casser les clichés, soit pour interrompre certains de leurs déferlements, soit pour justement suspendre l'attention aux images et permettre d'avoir accès à des images contemplatives. Et c'est 6h06, et donc je me tais s'il y a de la place pour les questions ou si vous devez partir à un vernissage. On fait circuler le micro ? Ouais, ça marche. Ouais, c'est bon.
Un grand merci pour cette précision avec laquelle vous avez circulé parmi ces sources hétéroclites. Inévitablement, cet écart que je souligne dans ce que je viens de dire m'amène à en questionner certains des aspects. Mais je jouerai le jeu de votre question et essaierai de répondre tout d'abord à celle que vous avez posée. Quelle expérience du numérique faites-vous qui est non substituable ? Il a été difficile ensuite de continuer à vous suivre avec autant d'attention et d'avoir tellement envie de pouvoir réfléchir à cette question. J'ai été tenté tout d'abord de pointer certains aspects précis comme et qui appartiennent spécifiquement à ce domaine. Mais peut-être est-ce que justement le terme même qui nous amène à en parler pose question. Numérique est un terme avec lequel on échange beaucoup, on se comprend, et pourtant, je le crois trop fortement implicite.
Ah super, ok.
Et j'y reviendrai dans la deuxième partie d'une intervention qui, je l'espère, amènera des questions aussi. Non substituable, en tout cas, je dois bien dire que la plupart de ces expériences qu'amène le numérique le sont.
Mais en quoi ?
Exactement. Or, elles ont à voir presque toutes avec quelque chose que nous pourrions faire autrement. Donc, la question restera ouverte, je ne vais pas me pencher là-dessus parce que je crois qu'il faudrait que je prépare une réponse. Cependant, certaines des caractéristiques de ce dont on parle, si on les précise, il me semble qu'elles nous donnent quelques pistes possibles. En particulier, Je crois qu'il s'agit de l'informatique ici. Et si on parle de l'informatique, l'expérience qu'elle induit, il faut peut-être alors arriver à différencier deux grands domaines de cette expérience. Et je laisserai cela juste je donne ça à la réflexion. Celle que produit un ordinateur seul et celle que produisent des ordinateurs en réseau. Une grande partie des expériences non substituables qu'induit le numérique me semble reposer notamment sur l'expérience que l'on fait du réseau. Il y a une citation de Willem Flusser que je vous remercie d'avoir indiquée, la numéro 3, dans laquelle je vais essayer cependant de voir en quoi est-ce que la partie plus spécifiquement informatique se doit d'être questionnée. Et voilà ce qu'il dit. Il est apparu que les ordinateurs savent non seulement faire des calculs, mais encore, de façon surprenante, créer de l'ordre. Pourtant, et c'est là quelque chose que nous devons à notre souci francophone de déterminer, de créer des termes, nous avons bien appelé cela un ordinateur. Il ne décompose pas seulement les algorithmes en nombres, en bits ponctuels et des corps mouvements. Ces bits, il les assemble aussi en figures, par exemple en lignes, en surface, en attendant d'en faire des corps en mouvement et aussi des sons. Et puis je vais descendre à la fin de la citation. Cette nouvelle élite pense en nombre, en forme, en couleur, en son, et toujours moins en mots. Les règles de sa pensée sont mathématiques, chromatiques, musicales, mais de moins en moins logiques. Or, ce à quoi je travaille depuis un certain temps, et je suis obligé de rester assez vague à ce sujet, m'amène justement à devoir reconsidérer avec une attention qui nécessite d'être de plus en plus précise la place que donnent les intellectuels à la part de calcul que l'on voit dans l'informatique. Je crois qu'il est justement pas du tout surprenant que les ordinateurs créent de l'ordre, et il est d'autant plus surprenant que l'on n'en voit que la part mathématique. À ce titre, je crois bon de rappeler que l'informatique ne sait produire des calculs que parce que c'est une machine logique. Et donc il est probablement nécessaire d'engager un travail à ce titre pour amener à une meilleure compréhension qui devrait nous aider à trouver une place plus spécifique au calcul. Et d'autre part, à mieux comprendre quelle est véritablement l'activité de très très bas niveau de l'informatique pour en examiner les expériences spécifiques auxquelles elle nous amène. Voilà, je vous remercie.
D'accord. Juste une précision sur le statut de logique dans le texte ici. Donc là, je vous balance des extraits. Logique, il l'a mis entre guillemets parce qu'il entend lier au logos. Hein, on pourrait peut-être discuter là-dessus tout à l'heure, mais je n'ai pas lu ce passage-là parce que ce n'est pas celui qui m'intéressait le plus, mais il y a une grande thèse chez Flusser qui me semble un petit peu datée, qui est qu'on serait dans une époque post-historique. Hein, on est dans une époque post-historique, justement avec le développement des techno-images, etc. Parce que la domination du mode de contrôle par le discours, et le discours, ça s'oppose pour lui à la conversation, le discours, c'est ce que je suis en train de faire ici, à savoir que moi j'ai un micro, et puis vous êtes là, et puis ça va à sens unique vers vous, et je vous donne des cadres d'interprétation, je vous donne des choses que vous êtes censé prendre et accepter. Le discours, c'est ça d'une part. D'autre part, le discours, c'est fondé sur du langage, du symbolique. Une de ses thèses, c'est de dire, et de nouveau, moi je ne suis pas sûr que ça soit pertinent et vrai, c'est de dire qu'on entre dans une époque post-historique parce que l'histoire, c'est justement se repérer à partir de discours. Et des discours, ça introduit une certaine linéarité, c'est un certain rapport au temps, alors que justement
la dynamique des réseaux, la dynamique du pluralisme, la dynamique de la conversation opposée à celle du discours serait différente. Et donc ici, lorsqu'il dit « logique » entre guillemets, de moins en moins logique, c'est de moins en moins discursif ou de moins en moins fondé sur un logos et de plus en plus fondé sur un arithmos ou la mathématique. Je ne dis pas qu'il a raison, mais je précise juste ce qu'il dit ici. Alors après, moi ça m'intéressait quand même de savoir plus cette histoire de non-substituable. Moi je suis sûr qu'il y a plein de choses non-substituables dans l'expérience numérique. Ne serait-ce, mais moi je vois ça de façon vicariante, je vois ça parce que des autres gens le racontent, qu'on peut avoir des extases en programmant. Non. Si, il y en a un qui a une extase, des orgasmes softwareiques. Je ne sais pas, hein, ça, forcément, c'est, moi je me suis voilà, je n'ai pas les couilles, donc je ne peux pas le faire, mais. J'imagine que là, de même qu'il doit y avoir du plaisir de faire une photographie, quand on fait une photographie, il y a quelque chose qu'on arrive à capter avec un appareil photo et que ça nous donne un plaisir absolument non substituable, j'imagine que quand vous êtes en train de programmer, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe, qui est dans le geste même de programmation, qui ne pouvait pas exister avant qu'il y ait la programmation, et qui existe comme ça, et qui existe là. Donc là, si vous me disiez, c'était où est-ce que quoi résiste à cette logique de cette dynamique de substitution dans ce qui sort, dans le concret qui sort de machines numérisées. Et alors, soit tout à l'heure, comme vous disiez, il y a l'ordinateur tout seul et puis les réseaux. Est-ce que les réseaux, c'est des réseaux simplement de machines ou est-ce qu'il y a des cerveaux, enfin, des corps et des esprits de l'autre côté des machines qui fait que lorsqu'on dit qu'on fait quelque chose en réseau, c'est pas seulement un supercomputer parce qu'il y en a 5 ou 500 qui sont branchés les uns sur les autres, mais c'est qu'il y a des subjectivités qui interagissent avec nous. Et que lorsqu'on se parle maintenant, ou lorsqu'on se parle tout à l'heure dans un bus, ou lorsqu'on se croise un regard, ou lorsqu'on est dans un réseau, des subjectivités avec des subjectivités à travers des tuyaux un petit peu compliqués qui passent par des microchips, qui puissent y avoir des choses non substituables, je suis persuadé. Dans quelle mesure y a-t-il quelque chose qui ne soit pas l'insertion d'une subjectivité là-dedans, qui soit non substituable? C'était peut-être ça ma question. Et je ne dis pas du tout que ça n'existe pas, simplement moi ça m'intéresserait de savoir. Voilà, peut-être que c'est pas une bonne question. Donc merci, parce que ce n'était pas du tout pour réfuter ce que vous avez dit, mais je réagissais simplement à ceci. Et la survalorisation du mathématique dans ce que les laïcs comme moi pensent de l'expérience numérique ou de la programmation, merci de rappeler ça. Je ne sais pas si ça marche.
Ça fonctionne. Ouais. Sur ce que vous posiez comme question sur le non substituable, il me semble de manière assez peut-être trop évidente que finalement quand on produit des objets esthétiques, c'est-à-dire qui ont vocation à provoquer plutôt une réaction esthétique de la part destinataire, d'un regardeur, qui va donc projeter une intention lorsqu'il fait l'expérience de cet objet, c'est-à-dire une expérience esthétique, quel que soit le matériau, le médium, le média, à partir du moment où l'expérience peut se faire, il me semble que là, il y a quelque chose de non substituable, parce que c'est l'objet qui le produit, et c'est la rencontre avec l'objet qui le produit. Donc cette relation, à partir du moment où on peut, non pas la programmer, mais en tout cas essayer de la projeter, quel que soit le matériau mis en œuvre, si on arrive à produire des expériences esthétiques, à fournir des expériences esthétiques à quelqu'un qui en sera le spectateur, que ce soit avec du numérique ou non, il me semble que la mission de l'artiste s'accomplit progressivement. Est-ce que le numérique peut être, dans l'ensemble de ce qu'il va nous permettre en tant qu'artiste de manipuler, c'est-à-dire précisément de manipuler du relationnel, la façon dont une image, un son va pouvoir se donner à voir, entendre, finalement comment l'expérience de ce qu'on va appeler un dispositif artistique qui est lui-même composé aussi d'une partie technique, comment finalement est-ce qu'on va interroger la vision du monde que ce destinataire a a priori et qu'il n'aura peut-être plus de la même manière a posteriori. Il me semble que la question de l'interactivité est inévitable lorsqu'on se pose la question de la production d'expériences esthétiques avec les outils du numérique, dans le contexte du numérique. Et finalement, les pratiques artistiques se déploient de différentes manières. Parler d'art numérique est une façon d'en parler. Le contexte numérique plus global existe aussi, et la question de l'interactivité s'y pose aussi. Donc il me semble que les niveaux d'interrogation sont extrêmement complexes et de plus en plus complexes, y compris par la question de la diffusion à travers les réseaux dont on parlait Alexis, c'est que cette interactivité a de multiples couches qui sont non seulement internes aux machines elles-mêmes et aux différents protocoles qui font leur existence et qui permettent leur mise en réseau, mais aussi leur mise en relation avec ceux avec qui elles font interface. Donc, je crois, la réponse que je peux formuler à votre question.
Et ça, si je précise la question, c'est une très très bonne réponse. Hein, c'est chaque expérience de réception est différente. La question sur le non substituable, c'est un petit peu le regard vers la reproductibilité. C'est le tableau de Titien, fétichiste le tableau de Titien, parce qu'il n'y a que Titien qui peut faire ce toucher-là. Et puis en fait, il y a trois ou quatre tableaux de Titien, c'est le poussin, non, c'est un sociologue, Lahire, qui vient de faire un livre sur le poussin qu'ils ont acheté, je ne sais pas combien de millions à Lyon. Pour voir comment on construit la singularité d'un poussin. Il y a trois tableaux dont on peut imaginer qu'ils sont tous le poussin, et puis par différents processus qui relèvent purement de la sociologie, une autorité dit que c'est celui-ci, il vaut 16 millions alors que les autres valent des clopinettes, et tout d'un coup on découvre, ah oui, c'est le toucher du poussin. Donc c'est l'aura de le truc singulier. Et ma question était naïve et bête, dans la mesure où elle reprenait le fait que des photographies, ça peut se reproduire, alors qu'un poussin, ça ne se reproduit pas. Mais il me semble qu'on peut quand même aller au-delà, dans la mesure, on retourne à Alain Kay, avec la notion où l'ordinateur serait un métamédium.
Exactement. Hein?
Le médium qui, comment il dit, qui simule, je crois que c'est ça, hein? Metamedium, it's a medium that can simulate any other medium existing or to come, right? C'est pas ça la définition du métamédium.
Yeah, in Alan Kay's words, yes, but I'd like to add that the idea could be of nested media. That is an interesting picture of the computer would be the technical dispositif that makes it able to nest media in each other.
D'accord. Bon, mais nest, c'est une métaphore très, très organique encore. Moi, ma question sur le métamédium, c'est de dire que on a des tableaux, on a des photographies, on a des instruments de musique, on a de l'ortolan ou des carottes. Alors, le numérique ne nous nourrit pas encore biologiquement, en théorie, on est d'accord. Mais le fait qu'on ait un métamédium parce que moi j'accepte cette définition de métamédium de Alain Kay, ça me semble très intuitif et très bien marché, mais ça veut dire que tel qu'il existe actuellement, et c'est pour ça que c'est une question de design pour vous, tel qu'il existe actuellement, il passe par quelque chose qui ressemble à un clavier et quelque chose qui ressemble à un écran, et avec des petits haut-parleurs. Et ça veut dire que passe à travers cet écran et ses haut-parleurs tout ce que les autres médias accumulés pendant des siècles ont fait. Et il y a une perte évidente. Alors, tout le monde, on peut considérer que c'est du pur fétichisme et lire l'avis des sociologues et rigoler quand même un tout petit peu de voir ce qui fait qu'un poussin est un poussin. Mais il y a, lorsque je parlais de concrétude tout à l'heure, hein, de concret ou de concrétion, oui. L'abstraction comme objective produit du concret, mais est-ce que c'est un concret? Alors, à compris, moi, c'est pas d'avoir un discours technophobe.
C'est pour ça que nested, c'est pas seulement vous en débarrasser, moi je dirais même en français enchâsser. C'est très important, c'est-à-dire qu'en tant que tel, c'est déjà un média. Seulement, il a la capacité, et c'est ça qui lui donne les capacités méta, d'en enchasser lui-même. C'est ça qui est très spécifique. De même que vous citiez le fait que votre expérience se passe comme ça, de façon un peu étrange, au travers d'un clavier et d'un écran. Mais c'est déjà cette forme-là. Et comme vous le disiez d'ailleurs vous-même, ensuite, ça se passe au travers d'eux. Ouais, c'est bien cet enchassement. Alors l'art de chercher de la concrétude là-dedans, chapeau. Parce que forcément, ça ne fait que nous ramener à une dépendance de médias dans les médias.
Et pour aller plus loin, ce qu'on appelle l'art des nouveaux médias, c'est en fait la face, une certaine aptitude des artistes de produire des nouveaux médias. Et non pas d'utiliser les nouveaux médias pour faire de l'art.
Voilà.
De faire de l'art, de faire des nouveaux médias en artiste.
D'accord. Voilà, ça, ça répond à la question. Tout à fait.
D'accord.
Ouais, c'est pour aller plus loin. Enfin,
et même la notion d'art numérique est aujourd'hui n'est plus posée dans cet art-là. C'est le label, c'est un peu effrité, on va dire, avec le temps. Et même, je crois que c'est Schlinger qui parle à un moment du contexte numérique des arts. C'est-à-dire que les arts sont traversés dans leur origine, dans leur destination, dans leur production, de faits numériques qui sont aujourd'hui diffus, qui sont constants, permanents, etc., qui se sont généralisés. En fait, il y a une situation généralisée du numérique qui fait que parler d'art numérique dans une recherche de spécificité de type moderniste est complètement daté. Ça nous ramène véritablement à l'émergence des années entre 50 et 80, on va dire, même peut-être 90, c'était déjà tardif. En tout cas, aujourd'hui, je pense que parler d'art numérique, c'est un label qui est déjà très connoté. Donc ça, c'était une chose. Et l'autre chose, alors c'est une autre proposition, mais je la laisse ouverte, parce que ma pratique de la comparation, dans ce qu'elle est, elle est très superficielle, elle est très marginale, elle est plutôt liée à des langages de description du texte, HTML, etc. Mais je l'ai, c'est-à-dire que j'ai cette expérience de passer d'un mode d'écriture de type textuel, avec des formes qui sont des balises, des choses comme ça, et de les faire disparaître au profit d'une autre forme, donc une forme de substitution propre à la pratique de la programmation. Et même dans un niveau extrêmement simple, qui est celui de ces langages-là, il me semble qu'il y a un plaisir particulier à l'exécution. C'est-à-dire que l'exécution qui passe par un mode d'automatisation, c'est-à-dire, entre guillemets, quand ça marche, d'où toute la question du bug, du défaut, manque ou du dysfonctionnement. Donc en excluant ces quatre situations qui sont assez fréquentes, c'est ce qu'on rencontre, alors que le multimédia, ça cesse de fonctionner, mais à l'inverse, quand ça fonctionne, ce qui arrive, il y a un plaisir particulier de l'automatisation, c'est-à-dire que la chose qu'on a écrite, décrite ou souhaitée ou hypothétiquement imaginée, pour ce qu'elle a d'imaginable, parce que vous voyez que Jens Barth, c'est bien compris ce qu'il disait, une part des codes qui ont été écrits par les auteurs eux-mêmes échappent à l'anticipation, mais que pour une part de cette anticipation, ce qu'elle rencontre dans son exécution participe d'un plaisir, moi, qui me paraît particulier, qui est probablement démiurgique, dans sa forme un peu caricaturale, qui dit en gros ça se passe aussi de moi, et que c'est peut-être une manière d'accepter sa disparition. C'est-à-dire une forme d'autonomie et de puissance qui est assez particulière, qui me semble, alors elle a peut-être aussi d'autres formes, peut-être que dans la dramaturgie, elle existe, je ne sais pas trop, mais qui est peut-être, alors je ne sais pas, en tout cas, s'il faut chercher sa spécificité, mais en tout cas qui joue beaucoup aujourd'hui.
D'accord.
Mais je ne sais pas, peut-être des programmes ou des usages différents peuvent avoir des points différents. Moi je pense que l'exécution procède d'un certain plaisir de celui qui l'a écrit, qui n'est pas forcément transmissible par le spectateur.
Je rejoins tout à fait Gilles, ayant une pratique de la programmation qui est peut-être plus ancienne que la sienne. C'est vrai que le plaisir de voir la chose fonctionner est évidemment présent, tout comme je le disais tout à l'heure, le plaisir de créer, en fait, tout simplement, quelque chose qui est à l'image de ce qu'on a imaginé, puisque finalement on parle d'imaginaire, et c'est quand même ça qui nous motive, c'est de voir dans cette machinerie numérique qui fait déjà dispositif en elle-même, qui est déjà média en elle-même, une possibilité de fabriquer un autre média, et voir une œuvre, mais évidemment c'est pas une obligation stricte non plus, hein, on peut faire énormément de choses avec ce contexte numérique, les arts sont une des parties parmi beaucoup d'autres choses qu'on fait avec, mais ensuite je crois que ce plaisir de la production qui fonctionne, parce que c'est vraiment le terme titré, ça fonctionne, est aussi doublé d'une compréhension. interface, j'arrive à, entre guillemets, parler correctement à un objet qui, a priori, n'est pas forcément prêt à m'entendre. Et je crois que la situation actuelle est un peu inquiétante dans une certaine mesure. C'est que beaucoup d'appareils, et surtout ceux qu'on a dans les poches, sont vraiment conçus comme étant des appareils de consultation. C'est-à-dire qu'on va consommer des choses dedans, et pour fabriquer avec ces objets par eux-mêmes, finalement, on est extrêmement démunis. Et donc là, c'est vrai qu'on a quand même une espèce de dérive qui est assez ennuyante, on va dire, parce qu'on a à la fois tous les moyens d'ouvrir ces boîtes, d'essayer de comprendre comment on fonctionne en les pratiquant, parce que c'est bel et bien ce dont il faut faire. On ne peut pas se soustraire à une pratique relativement intensive, en fait, pour se détacher d'une certaine peur du « je ne saurais pas le faire, ça ne fonctionnera pas, je ne comprendrai pas ». Et en même temps, les outils sont là, et pourtant, quelque part, entre guillemets, on les cache encore plus. Donc il y a une espèce comme ça de paradoxe, il me semble, qui arrive en ce moment. Ouais.
Je ne sais pas, je vous ai mis juste une référence dans le, après Flusser numéro 4, c'est ce livre de, que moi je vais lire maintenant, de Wendy Hui Kyung-Shun, Program Vision, qui discute justement ça et qui, il me semble qu'une de ses thèses, c'est vraiment un livre très riche, je découvre plein de choses, et une de ses thèses, c'est de dire l'évolution de la programmation à travers des object-oriented dont on parlait tout à l'heure, avec ces modularités, avec les applications et tout ce qu'on peut reprendre, à la fois ça augmente le pouvoir, le discours habituel c'est de dire que ça rend les choses plus simples, donc ça démocratise la programmation, donc ça la rend plus accessible, donc ça empowers, hein, ça nous donne la puissance, et il dit en fait que ça fait que multiplier les couches de boîte noire, qui fait qu'on pourrait tout à fait tenir le discours inverse, qu'au contraire ça nous éloigne de la maîtrise, de comprendre comment ça fonctionne, parce qu'on est condamné, elle dit ça, je ne sais pas, mais elle dit que les programmeurs sont dans une position de plus en plus, alors après je dis les programmeurs ça n'existe pas, il y a différents niveaux de skill, il y a différents niveaux de pratique, etc., mais qu'il y a une sorte de paradoxe du pouvoir qui est que ce qui facilite la programmation la rend l'opacité, la rendrait plus opaque. Et elle construit tout son truc là-dessus,
et je trouve ça amusant. Mais je ne sais pas si c'est... Moi, je regarde ça de loin, je ne sais pas si ça correspond à des pratiques, à des soucis, à des choses que vous vivez ou pas. Quelqu'un l'a lu, ce truc, par ailleurs ? Moi, j'y connais. Pour des naïfs comme moi, c'est intéressant. Je ne sais pas pour vous si ça sera bien, mais il me semble qu'elle pose vraiment des problèmes très, très riches. J'ai mis la référence là, si jamais.
Par rapport aux expériences numériques non substituables, si peut-être, je ne sais pas si du tout c'est possible, mais comme le numérique et l'informatique seraient capables de recréer des expériences donc réelles que l'on connaît déjà, est-ce qu'il serait peut-être hypothétiquement, peut-être que ça se fait déjà, de recréer de créer même plutôt des expériences inédites, des sensations, par exemple, que l'on ne connaît pas dans la nature, que de l'ordre du goût ou même peut-être des couleurs, je ne sais pas, voilà.
Pour moi, oui, à la fois vous donnez la réponse dans la question, non ? Oui, il y a plein de choses qu'on fait aujourd'hui, non seulement quand vous programmez, mais quand moi je consulte, enfin je passe par des machines qui auraient été inouïes il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc là, oui. Après, ce que je reprendrai dans ce que je creuserai dans ce que vous disiez, c'est de créer des sensations inédites. Et là, peut-être qu'on pourrait distinguer ce qu'est une expérience. Je peux avoir une expérience, par exemple, quand je parle à travers Skype,
c'est un tuyau. L'ordinateur devient un tuyau, et puis je parle, et puis je vois quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète, et puis je lui parle, etc. Le grain de l'image, le fait que ça soit synchronisé, même s'il ou elle est au Japon, etc., c'est une expérience inédite, d'accord ? Et presque tout le monde peut faire ça. Hein. Il y avait The Economist l'autre jour avait un truc en disant en 2020, 80% des humains auront un smartphone. Je ne sais pas si c'est vrai, peut-être qu'en 2020, il y aura 20 Fukushima et qu'il n'y aura plus. Bon, peu importe, mais si ça ne se passe pas trop mal, 80% des humains auraient des smartphones. Donc le fait que 80% des humains puissent se skyper de droite et de gauche, effectivement, ça produit plein de choses absolument inédites. Non substituables, parce que, ça aurait, voilà, parce que c'est cette personne avec qui je parle, maintenant moi ici, et elle là-bas. Sensoriellement, il y a une qualité de Skype, ou une mauvaise qualité, je ne sais pas, qui effectivement produit des choses uniques, qui sont toujours un peu différentes, toujours un peu aléatoires, qui jouent avec nos affects, qui jouent avec tout ceci. Donc il y a bien quelque chose de sensuel, de sensoriel là-dedans. Moi, j'imaginais que vous, en tant que vous travaillez sur du design, qu'une de vos aspirations, ou un de vos rêves, ou une de vos pratiques quotidiennes, je ne sais pas, c'est d'essayer de se demander justement dans ce qui va sortir de l'écran, le haut-parleur, pour le moment c'est comme ça. Après, j'imagine que ce sera des électrodes, ce sera des choses qu'on va brancher à droite et à gauche. Donc, dans ce qui va sortir de la machine, comment développer la sensualité de la chose, une sensibilité aux textures, une sensibilité, parce que ça, quand même, les matières, c'est aussi des textures. Et tout à l'heure, c'était très beau, ce qui nous montrait, justement, avec ces différents types de background, etc., c'est bien des affaires de texture qui se posent. Donc, vous, j'imagine que c'est votre quotidien, ces questions-là. Et en même temps, de se dire, et là, tu as répondu à la question, à savoir, ce que vous créez, c'est des nouveaux médias, à chaque fois. Et donc, ces nouveaux médias, ils permettent de prolonger l'humain, si on veut, en termes de Marshall McLuhan, ou de enregistrer, traiter, diffuser de nouvelles expériences sensorielles aussi. Donc, on voit bien avec les couleurs, on voit bien avec les formes. Qu'est-ce qui se fait comme texture sur les écrans ? Là, il me semble qu'il y a quand même quelque chose, que c'est toujours un peu slick, que c'est toujours un peu, que c'est toujours une vitre qu'on a devant soi. Est-ce que ça se fait avec des trucs qui soient mat au lieu de brillant ? Est-ce qu'il y a des trucs qui font que ce soit rêche au lieu, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des écrans rêches ? Ça existe ? Parce que ça, voilà, c'est ce type de question, il me semble, ou alors des écrans 3D, ou quelque chose qui me crache au visage, je ne sais pas. Après, ça devient des gadgets à la noix, mais de travailler sur les textures, et ça, je ne sais pas si c'est ce que vous faites, c'est ce qui est absolument inintéressant. Il y a des gens qui font ça, mais ils sont vraiment des losers parce que ça mène nulle part.
Juste un exemple dans la continuité de l'image que vous nous avez donnée, issue du Teeming Gold à ce sujet, qui est peut-être difficile à appréhender, mais qui me semble pertinente. Moi, j'aimerais bien avoir la possibilité d'avoir des écrans rêches. Hein, ça ne me semblerait pas un gadget. Bon, c'est une... la figure du centre montre un découpage par points, mais il n'est dit nulle part qu'on est passé au numérique. Et en particulier, si l'on essayait de donner des coordonnées à ces points, et que par un malencontreux hasard, on se rend compte que l'un seul même de ces points possède comme coordonnée horizontale une valeur qu'on n'arrive pas à réduire. Appelons-la pi. On serait bien embêté. Et ça, dans le numérique, on ne peut pas le faire.
C'est un petit peu le cas qu'on voyait tout à l'heure avec des factorisations qui faisaient 83 ou 87 et qu'on n'arrivait pas, ça ne jouait pas, on ne pouvait pas faire la même chose que ce qu'on essayait de reproduire. Ça produisait du nouveau. Il y avait quelque chose, un surplus qui était propre au transfert sur un iPhone, parce que justement c'était pi ou c'était quelque chose qu'on n'arrive pas à cerner exactement. D'accord.
Bon, sur cet écart de texture que tu évoquais, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue non plus une réalité. C'est une réalité industrielle très présente ces machins et dans ces machines. Et en réalité, l'accès matériel est vraiment très lointain dans la géographie, dans les machines. La machinerie est quand même une boîte. Je ne sais pas si la notion de boîte noire marche encore. C'est des boîtes dans des boîtes. C'est vraiment, c'est loin de nous. Disons qu'on a du mal à faire un sténopé quoi, avec un ordinateur. Enfin, si on prend l'image de l'histoire des bricolages photographiques, par exemple, le bricolage en informatique, alors on peut faire le rétro gaming, il y a plein d'autres choses, mais c'est moins direct ou moins... Enfin, je pense qu'il y a, il y a un effet d'échelle qui s'est produit, et que la distance est plus complexe à... Enfin, ça s'est éloigné de nous un peu.
Mais ça c'est une meilleure façon de reprendre ma question que ce que je disais, à savoir, moi j'ai fait en 300 ans l'histoire de la modernité par la grammatisation, mais tout ça, ça va ensemble avec l'histoire de l'industrialisation. Et que là, justement, le métamédium qui se diffuse, il se trouve que ce n'est pas des trucs qu'on bricole chacun chez nous en coupant un bout de bois et puis en branchant des électrodes dedans, que c'est produit au Japon ou en Chine, que c'est fait à grande échelle, que c'est industrialisé. Et donc... mais si on admet le fait que c'est comme ça, alors est-ce que le design, c'est pas justement comme il y a des gens, je sais pas si vous connaissez ces ateliers où on fait soi-même son éolienne, hein, on passe une semaine, on vient, on prend un bout de bois et on lime le bout de bois et on construit toute son éolienne à plusieurs. Est-ce que le design radical, ça serait pas de dire on construit notre ordinateur? Et comment simplifier le truc, parce que c'est aussi une question de simplification, quels sont les éléments de base, les éléments essentiels, et comment faire pour court-circuiter l'industrie, ou pour sortir de l'industrialisation directement attachée aux médias maintenant qu'on a en main. Je ne sais pas si c'est bien,
ce courant existe, hein, il y a un courant rétro dans le Raspberry, c'est ça le nom, une espèce de micro-PC très réduit, qui évidemment n'est pas, ne nous ramène pas à des dimensions artisanales, ça reste des phases industrielles, mais disons réduites, minorées, enfin, on sent qu'on est dans un reflux de la surenchère, en tout cas, on est à l'inverse d'une surenchère, on est dans une sorte de volontaire réduction de la boîte, des fonctions, etc., qui est un vrai plaisir, très probablement, de maîtrise, à nouveau, là, mais qui opère vraiment par réduction. Et donc, ce mouvement existe, mais il va pas descendre à des niveaux artisanaux, effectivement. Donc, on ne peut pas faire les circuits, quoi.
Voilà, les circuits, je ne peux pas les bricoler avec un tournevis. Ouais.
Ouais. Même avec du perchlorure, quoi.
Après, quelles sont les conséquences de ça? Il me semble que ça a quand même des conséquences énormes et je ne lis pas tout ce qui se fait, mais qu'il y a plus de pensées à faire autour des conséquences de ça, aussi évident que ce soit, que ce qu'on fait, il me semble. Il est tard et tout le monde a l'air vraiment épuisé. Je crois qu'il faut faire grâce à tous ces corps laborieux. Merci.